Café frappé.
Nos invités du jour, c'est Héloïse et Pierre. Salut à tous les deux.
Bonjour.
Salut.
Vous êtes étudiants à l'ENSAP Bordeaux, ou E-N-S-A-P, comment on dit ?
ENSAP.
ENSAP, très bien. C'est l'École nationale supérieure d'architecture et de paysage. C'est à Bordeaux, c'est en forme de pyramide. C'est ça, hein ?
Exactement.
C'est bien la pyramide qui est derrière Montesquieu, là, après, enfin, vers la
Rocade.
Voilà, vers Cage, tout ça. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos études et de cette école ? On va décortiquer un peu tout ça, le cursus. Puis on va parler aussi, il y a un mouvement de grève en ce moment dans cette école. C'est le sujet de l'émission. Mais tout de suite, on voudrait savoir ce qu'on étudie dans cette école d'architecture. On a une petite idée, mais on veut en détail.
Eh bien, l'architecture et le paysage, déjà. Donc, c'est une grande école. Donc, c'est la différence avec l'université. C'est-à-dire qu'on n'est pas totalement au sein de l'université. Et donc, on étudie l'architecture et le paysage pour avoir un diplôme d'architecte d'État et un diplôme de paysagiste concepteur. Et donc, il y a deux types de formations. Les deux, c'est donc sélectif, puisque c'est une grande école. C'est ça qui est la différence par rapport à l'université, où en théorie, il n'y a pas de première sélection. Et donc, pour être sélectionné, très souvent, le parcours général, on va dire, c'est juste après le bac. Mais après, il y a des filières. On peut y rentrer un peu plus tard aussi, en deuxième, troisième année.
Avec l'équivalence.
Avec équivalence, exactement. Pour les étudiants en art, par exemple, le type MANA, maintenant ça s'appelle MAD, je ne sais plus,
type <C'est> IUT.
et donc effectivement, il y a deux types de formations, donc il y a archi et paysage. Les deux, donc ce sont des métiers qui sont, on va dire, dans l'aménagement de l'espace, donc aménagement soit du bâtiment, plutôt, à proprement parler, pour l'archi, et plutôt des espaces extérieurs pour les paysagistes. Donc on est vachement complémentaires, on travaille beaucoup ensemble.
Oui, d'accord.
Et au niveau des promos à peu près, par exemple, donc on est autour de 100 archis à chaque fois par promo, et autour de 30 à peu près, je crois, au niveau des paysagistes. Voilà, donc les sélections, très souvent, c'est donc avec post-bac. On a de tout type de bac qui peuvent venir, même des types de bac pro aussi, voire bac techno, qui viennent derrière. Donc ça, je parle pour les archis, pour les paysagistes, c'est pareil. Les paysagistes, c'est donc en 2 plus 3 ans. Donc c'est-à-dire qu'il y a 2 ans de préparation à un concours qui est interne. Et après, et derrière, donc en fait, au final, c'est l'équivalent d'un master en 5 ans, alors que les archis, c'est licence plus master. C'est 3 plus 5. 3 plus 2, pardon. Qui fait 5.
Merci Pierre pour ce résumé détaillé de ce qu'on étudie dans l'École nationale supérieure d'architecture et de paysage. Moi, je n'arrêtais pas d'oublier ce que c'est le métier de paysagiste, mais voilà, c'est comme architecte, mais pour les espaces extérieurs.
C'est ça, et c'est très différent de paysagistes jardiniers qui, eux, vont faire, alors que paysagistes concepteurs, eux, vont le dessiner. Par exemple, la place Gambetta à Bordeaux, donc elle a été faite par Sabine Aristoy, qui, elle, est paysagiste dessinatrice, conceptrice, et après, derrière, ils ont planté. Mais là, c'est pas le paysagiste concepteur.
Bien faire la différence avec le concepteur qu'il y a après, là, ça change du tout au tout.
Exactement.
D'accord, bah, c'est beaucoup plus clair.
Voilà.
Tu l'as dit, c'est une école qui n'est pas rattaché au système universitaire. Ce que ça implique, c'est cette sélection à l'entrée.
Exactement.
D'accord.
Et en gros, c'est une sélection, donc il y a beaucoup de demandes. Au niveau national, il y a donc 20 écoles d'architecture. Donc il y a beaucoup, beaucoup de demandes au niveau archi, tout comme paysage. Et il se trouve qu'au final, on a à peu près... Donc c'est une première sélection qui est par le dossier, donc des étudiants, très souvent au niveau de la dernière année, en terminale. Ou après, c'est au niveau d'une sélection par le bac, donc en fonction des notes du bac quand on a fait des années d'études avant. Et donc derrière, on a à peu près 700 personnes qui sont retenues en fonction de cette sélection avec les notes pour aller vers un oral. Donc là, c'est là où il faut se présenter, donc il faut être plutôt à l'aise à l'oral et tout. Mais en même temps, c'est intéressant parce qu'on peut un petit peu se défendre, c'est ça qui est pas mal. Et ensuite, après, donc, il y a à peu près une centaine d'étudiants qui sont pris derrière sur les 700.
Ah ouais, c'est pas beaucoup, c'est donc, une sacrée sélection quand même.
C'est une sacrée sélection, mais après, derrière, je pense que quand on est motivé et qu'on a des notes moyennes, il faut pas avoir, on n'est pas tous les premiers de classe, loin de là. Hein. Donc,
d'accord.
Donc ça marche souvent quand
mais
on est motivé.
Ça vaut le coup de tenter. Hein. N'oubliez pas, chers étudiants, on n'a rien à perdre à tenter.
Exactement.
L'entrée d'une école.
Voilà.
Vous êtes donc Pierre, toi tu es en Master 2,
oui.
Héloïse, tu es en Master 1.
Oui.
C'est le même Master ou il y a différents Masters? Ça se passe comment?
Okay. Non, en fait, il existe, comme c'est un diplôme d'État, on a un master qui est général, puisqu'à la fin, on est tous architectes et on a tous l'autorisation de signer des chantiers qui nous est donné par le gouvernement, en fait. On prête serment, etc., dans cette optique-là. Après, dans chaque master, du coup, on va avoir un choix d'atelier, puisqu'on travaille beaucoup en atelier. où là, on va pouvoir se spécialiser un petit peu en interne sur les sujets qui nous intéressent. Donc, par exemple, moi, je suis un master qui est plutôt tourné vers l'urbanisme. On a des personnes qui sont plutôt vers le design, la conception générale d'habitat, etc. C'est un peu au choix. C'est à la carte.
Très bien.
Mais au final, on est tous diplômés d'archi. Pour le côté archi et pour les paysagistes, c'est pareil. C'est assez général. Ils choisissent différentes parties du paysage. Et c'est ça qui est super intéressant à la fois dans l'architecture et dans le paysage. C'est qu'en fait, on fait un peu de tout. On fait à la fois de l'histoire, de la culture. On est très technique aussi, puisqu'il faut que le bâtiment y tienne en soi. On va aussi faire plutôt de l'urbain. On va faire c'est très artistique aussi, puisque ben, l'image, au moins pour le... Pour l'archi bah, qui s'est dessiné, bah, effectivement, c'est vrai. On a aussi la mémoire à faire, donc on écrit pas mal. Donc en fait, on fait de tout. Et c'est ça qui est assez intéressant, à la fois du côté archi que paysage.
Et aujourd'hui, ça représente quoi d'être architecte ou paysagiste concepteur ?
Eh bien, c'est assez difficile. D'abord, parce que c'est des métiers qui sont très précaires. On a beaucoup le préjugé un peu du moins du côté archi, de l'archi qui est riche, en fait, et qui, ben, du coup, fait des villas pour des personnes riches.
Et qui a et un bureau fait... dans un immeuble complètement bariolé en verre.
Exactement, en verre, comme Radio Campus, par exemple.
Voilà. Ah, mon Dieu.
Et en fait, au final, on a quand même quelques archis qui, eux, qui sont plutôt connus, qui font les grands bâtiments de nos villes. Et donc, eux, souvent, sont riches, effectivement, mais en fait, après, pas du tout. C'est un métier qui est assez précaire et qui est, du coup, très souvent, enfin, la majorité de l'exercice en tant qu'architecte, c'est en libéral. Donc, c'est-à-dire qu'on travaille dans une agence. Soit on l'a créée, donc il faut faire une sixième année pour la créer, HM-P, je crois. Mm-hmm. Mais c'est ça. Et du côté des paysagistes, c'est pareil. La plupart travaillent en agence, en libéral. Mais après, il y a plein d'autres façons. Dans toutes les instances publiques, on va voir dans le conseil, au niveau des mairies. Et on travaille à plein d'échelles. On va peut-être à la fois conseiller un territoire, mais aussi conseiller une mairie, mais aussi vraiment peut-être un habitant qui, lui, veut refaire sa maison, par exemple. Donc c'est de tout, quoi. C'est ça qui est intéressant. Dans les deux cas, et on est très liés au final, puisque tous les bâtiments, mais justement le bâtiment de Radio Campus, donc il est ouvert, on le voit de très loin dans le campus, et bien lui, il a été fait donc par un archi, mais il y a eu aussi forcément un paysagiste qui a dû aménager un patio autour, même si l'environnement, enfin le cadre du bâtiment, il n'est pas très très bien soigné, mais il y a forcément eu un paysagiste un jour qui l'a fait. Donc on travaille toujours ensemble, quoi.
On a un petit jardin quand même à côté avec des petits pins, tout ça c'est agréable pour piquer. Niquer ou faire une sieste quand il fait chaud.
Et bien, du coup, il y a sûrement eu peut-être un paysagiste concepteur qui l'a fait.
À titre perso, Héloïse et Pierre, pourquoi vous avez voulu vous lancer dans ces études d'architecte ?
Waouh ! Moi, je suis arrivée là complètement par hasard. Je ne savais pas ce que c'était un architecte ou un paysagiste avant d'entamer mes études supérieures. J'ai fait une première année à Montaigne, en fait, en langue étrangère appliquée. J'avais fait un bac L juste avant. J'ai pas le profil qu'on peut imaginer type pour les études d'archi, mais en fait, c'est un modèle qui est carrément à déconstruire parce que, bah, du coup, je suis quand même en architecture. et en fait, je suis arrivée là parce que je passais devant cette école tous les matins. Je me suis dit, ça a l'air super l'architecture et j'y suis allée, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en arrivant, qu'il y a énormément de profils, des gens qui avaient fait des bacs pro, des gens qui avaient fait des manas, des gens qui avaient eu d'autres carrières avant, des gens qui avaient fait des compagnons, des gens qui avaient... Enfin, vraiment des profils hyper variés. C'est pas juste des gens qui sortent de bac S, qui arrivent en archi et qui font des maths toute la journée, quoi. Vraiment, c'est pas ça les études d'architecture. Donc, enfin, Pierre l'a déjà expliqué,
oui,
mais
voilà,
c'est super important de repréciser. Ouais.
Plein de disciplines très différentes.
Ouais. Exactement, c'est hyper transversal, on fait autant de la socio, de l'histoire, des maths, de la physique, du dessin, de l'urbanisme, on fait de tout, vraiment de tout.
Donc toi Héloïse, tu t'es retrouvée là un peu par hasard, t'avais envie de tenter et finalement t'es en master donc ça t'a plu.
Et je suis en master et j'envisage un doctorat même, donc ça m'a vraiment beaucoup plu.
Ah ouais, t'es mordu d'architecture.
Voilà.
Très bien, un doctorat sur quoi, ce serait quoi ton domaine de recherche ?
Sociologie de l'architecte, donc en ce moment je travaille sur le déterminisme social dans les écoles d'architecture et dans la profession, c'est assez orienté.
Très bien,
voilà.
Super, ça a l'air passionnant. Et toi Pierre ?
Et alors moi du coup justement je suis plus l'étudiant basique on va dire qui sortait d'un bac S et qui est parti dedans.
Ah là,
disons la plupart
caricature.
Des étudiants. Je suis un peu plus ennuyeux. mais au final non, ce qui m'intéressait beaucoup c'était le côté où on faisait à la fois, on peut très bien faire avoir un propos très politique, très technique, très artistique. Le côté artistique était un peu la partie qui me plaisait un peu moins, j'avais moins d'attrait à la base. C'était vraiment le côté plus politique urbain. Parce qu'au final, en fait, on peut vraiment changer. Enfin, c'est-à-dire que le bâtiment, si on change sa forme, on peut vraiment changer la vie des gens. Parce que si les toilettes, elles sont à droite, eh ben, elles ne sont pas à gauche, mais il y a peut-être des raisons, quoi. Le hall d'entrée, ce hall d'entrée, la façon dont il est fait, eh bien, ça va tout changer. Et donc, c'est pour ça que tout ça, ça me plaisait. C'est une petite envie de changer le monde et à ma petite manière, mais de manière très petite.
Mais c'est pour ça que t'es rentré par une porte secrète à Radio Campus, et qu'en fait t'es architecte, donc tu connais les entrées secrètes du bâtiment.
J'ai fait découvrir la, la porte d'entrée que tu n'avais jamais découverte.
Tu rentres dans la Maison des Arts, il y a ton cerveau qui scanne en 3D comme ça le bâtiment, tu vois toutes les entrées et les sorties, c'est magnifique.
C'est
d'accord,
fou,
faut qu'on en parle de ça aussi.
Oui, il faut vraiment que je te montre.
Tous les deux, vous diriez que ça demande quoi comme qualité ce cursus ?
De parler. Il faut beaucoup, beaucoup dialoguer.
On travaille beaucoup à l'oral, toutes nos présentations. En fait, on n'a pas beaucoup de partiels finalement. On travaille beaucoup sur des présentations de rendu, etc. Donc, mais ça s'apprend hein, au fil du cursus à communiquer pour arriver à faire passer les idées de son projet. Le dessin, honnêtement, oui et non. Enfin, c'est super si tu dessines, et si tu dessines pas, t'as un ordi. Donc aujourd'hui, on travaille beaucoup sur ordi. Enfin, tout va bien se passer, il n'y a pas de souci.
Oui, exactement.
Et en fait, il faut surtout être capable de globaliser les informations que tu reçois. En fait, la plus grande qualité de l'architecte, c'est de pouvoir parler à tous les corps de métier.
Exactement.
Et de faire comprendre à tout le monde son propos, aussi bien au maçon qu'à l'ingénieur, qu'à l'habitant, qu'aux politiques de la ville. C'est comme un médiateur en fait, de tout ça pour réussir à mener un projet à bien à toutes les échelles.
Et est-ce que vous avez, j'en profite parce qu'on est dans le magazine étudiant, est-ce que vous avez des conseils à donner aux étudiants qui sont dans cette école ou qui voudraient l'intégrer pour mener un bon cursus et s'épanouir à fond ?
On pourrait dire du côté positif, on va d'abord parler du positif.
On va parler du positif parce qu'après on va parler du négatif puisqu'il y a une grève, hein, donc forcément il y a des choses qui vont pas.
C'est ça.
Mais parlons du positif, voilà, on est étudiant, on voudrait se réorienter, ou il y a des gens en terminale qui nous écoutent. Ils se demandent, est-ce que je rejoins l'école d'architecture l'année prochaine ? Quels conseils vous pouvez leur donner ?
Moi je dirais la curiosité, parce qu'au final il faut vraiment s'interroger, vu qu'on apprend de tout, ben, il faut être curieux dans tout. Et donc il faut être curieux à la fois du détail technique et de comprendre comment la fenêtre elle marche. Bon, ça c'est pas une très grande curiosité, mais aussi être curieux de comment est-ce que, ben, pourquoi est-ce qu'on fait tel bâtiment à tel endroit. Il y a des raisons, il y a des politiques générales. Donc je dirais la curiosité et le côté très polyvalent en fait, où on parle de tout.
Et aller voir des expos, lisez beaucoup, c'est vraiment, encore une fois, on fait partie du coup du domaine de la culture, on ne l'a pas précisé, mais nous on appartient au ministère de la culture, on n'appartient pas au ministère de l'enseignement supérieur, et en fait ça dit ce que ça dit, c'est qu'en fait on est une discipline du coup, qui vient des Beaux-Arts. Tu peux...
Oui c'est ça, donc c'est avec mai 68, donc avant mai 68 c'était une partie de la discipline des Beaux-Arts, c'était une forme un peu de master, une spécialisation, donc on était architecte mais d'abord on était artiste un peu, et après on devenait architecte, alors qu'aujourd'hui ça s'est séparé, mais par contre on reste rattaché au ministère de la culture, alors que l'université elle est rattachée au ministère de l'enseignement supérieur, donc c'est ça qui est différent, et ce qui fait qu'aussi il y a des problèmes de financement, d'où la mobilisation en ce moment étudiante.
D'où la mobilisation. Alors ça, c'est quelque chose que je ne savais pas. Donc forcément, on va le dire tout de suite, il y a une manif qui se prépare cet après-midi qui commence dans une demi-heure.
Exactement.
Oui, Place de la Victoire, je vous invite tous à venir. Donc on a également les étudiants des Beaux-Arts, quelques étudiants d'archéologie qui potentiellement peuvent nous rejoindre. Quelques médias seront présents aussi, donc voilà, venez nombreux.
Voilà, et notamment à Paris, je crois que le cortège va aller jusqu'au ministère de la Culture. Et c'était une de mes questions, c'est pourquoi le ministère de la Culture et pas de l'enseignement supérieur ? C'est parce que les ENSA sont rattachés au ministère de la Culture. Et est-ce que c'est à cause de ça qu'il y a peu de moyens ?
Oui.
Non, c'est bien que la culture n'a pas trop de moyens
voilà.
en France.
C'est pas un secret. Après, c'est pas seulement ça. Hein. Même au sein du ministère de la Culture, je vais vous épargner les longs tableaux Excel et les chiffres... à n'en plus finir, mais même au sein du ministère de la Culture, on fait partie des formations les plus sous-dotées en fait, de France, même comparé à l'enseignement supérieur. Les étudiants architectes sont clairement sous-dotés par rapport à quasiment toutes les autres formations. En fait. Enfin, c'est assez incroyable. Pour vous donner une ordre d'idée, donc on a des besoins matériels, etc., qui sont comparables aux écoles d'ingénieurs. Par étudiant, le budget, il est à peu près divisé par deux comparé aux écoles d'ingénieurs. Donc on est vraiment dans une situation très précaire pour nos études, à tel point que ce qui a provoqué du coup le mouvement national des écoles nationales supérieures d'architecture et de paysage il y a quelques temps, c'est qu'en janvier, l'école de Normandie n'a pas pu ouvrir ses portes parce qu'il manquait de moyens, donc ils n'ont pas pu accueillir les élèves, ils ont dû décaler leur rentrée scolaire d'une semaine. C'est inédit dans l'enseignement supérieur de ne pas pouvoir ouvrir.
Et inimaginable.
C'est inimaginable, c'est absolument un manque au droit à l'éducation. Donc de là, on a une mobilisation très très forte qui est partie de l'école de Normandie, avec toutes les autres écoles de France quasiment qui se sont mis à les suivre, donc notamment beaucoup d'écoles parisiennes qui sont très engagées. Ça fait une semaine qu'ils font des manifestations tous les jours dans la rue. Aujourd'hui, ils vont au ministère de la Culture. Nous, on va du coup se positionner à la DRAC pendant le cortège qui est comme l'antenne du ministère de la Culture en région en fait. On a des écoles qui ont commencé à banaliser leur école, en fait, donc les enseignements n'ont plus lieu, les écoles sont occupées jour et nuit par les étudiants. Et nous aujourd'hui du coup à Bordeaux, ce qui s'est passé, donc on a décidé de se rallier à ce mouvement jeudi dernier lors d'une assemblée générale qui a voté à la majorité la banalisation des enseignements, ce qui veut dire que donc à partir d'aujourd'hui et jusqu'à vendredi prochain, les cours n'ont pas lieu. On met en place des ateliers sauvages en fait au sein de l'école qui ont pour but de réfléchir à tous les problèmes qui existent au sein des écoles d'architecture et de paysage. On participe également cet après-midi, du coup on a organisé en fait une manifestation qui effectivement part de la Victoire pour aller passer devant la DRAC et revenir jusqu'à la Victoire, donc c'est une boucle qui va durer à peu près 2 heures, donc on vous invite nombreux et nombreuses à venir nous rejoindre. Voilà, donc en fait nos revendications elles sont simples, c'est d'avoir simplement assez de moyens pour avoir des professeurs, des techniciens et des locaux décents, puisqu'on a aujourd'hui des écoles qui ne peuvent pas ouvrir parce qu'elles n'ont pas de professeurs, qui ne peuvent pas ouvrir parce qu'elles n'ont pas de techniciens ou d'administratifs. On n'a pas de personnes, ne serait-ce que pour gérer les emplois du temps dans certaines écoles. C'est très, très grave. Pour vous donner l'exemple, à l'école de Bordeaux, on a une matière artistique. En 5 ans, on a vu le nombre de professeurs divisé par 2 dans cette matière. Donc, c'est-à-dire que pour 100 étudiants, aujourd'hui, on a 4 encadrants. À l'époque, on en avait 8.
Ouais.
Donc, c'est vraiment impossible en fait pour les enseignants d'assurer leurs enseignements. Nos enseignants se retrouvent à faire des heures supplémentaires non payées pour pouvoir nous assurer un enseignement de qualité. On a des enseignants-chercheurs qui ont des statuts hyper précaires. On a une majorité d'enseignants qui n'est même pas titularisé à l'école, donc qui voient tous les ans se poser la question de savoir s'ils vont pouvoir travailler l'année prochaine ou pas. Enfin, c'est vraiment des statuts qui sont très précaires. Et pour nous, étudiants, l'impact que ça a, c'est qu'en fait, on a moins de temps d'accompagnement, une moins bonne qualité d'enseignement. Et encore une fois, l'architecte, il est d'utilité publique, en fait, hein, il est reconnu, il a un ordre, etc. On ne peut pas se permettre aujourd'hui d'avoir des architectes qui sont moins bien formés à cause d'un manque de moyens du ministère de la Culture.
Et au vu des enjeux qui nous attendent, puisque l'architecture c'est, et le paysage aussi, c'est vraiment au cœur des enjeux à la fois climatiques, sociaux, de tout type d'enjeux environnementaux, on ne peut pas se permettre juste de ne pas bien les former, du coup.
Donc des conditions qui sont difficiles dans les écoles d'architecture, on récapitule, très peu de moyens, très peu de personnel, du personnel qui même est divisé est divisé à chaque fois, à chaque rentrée. J'imagine qu'il y a beaucoup de vacataires aussi qui travaillent dans des conditions déplorables.
Bien sûr, qui sont sous-payés aussi.
Qui sont sous-payés, qui travaillent pour 3.
Et qui exactement travaillent pour 3 et qui très souvent cumulent aussi à côté, puisqu'ils ne peuvent pas avoir un temps plein à l'école, cumulent d'autres activités qui sont parfois aussi précaires en agence.
Donc forcément, tout ça, ça se répercute sur les étudiants. Donc les étudiants font grève pour soutenir aussi le corps enseignant.
Et administratif.
On n'oublie pas l'administration, évidemment.
Qui aussi diminue. Et du coup, il y a même des coupures de budget où au final, il faut presque choisir quel corps il faut sacrifier un petit peu. Donc c'est quand même compliqué.
En fait, voilà, aujourd'hui, on a peur un peu de se diriger vers une privatisation des écoles nationales supérieures d'architecture et de paysage, ce qui serait absolument dramatique pour la représentation, en fait.
De la puissance publique. Voilà. Le secteur public doit former les architectes et non pas le secteur privé. C'est ça qu'on veut.
Donc c'est un peu le même risque qui s'était présenté il y a plus de 10 ans. Je crois que c'était la loi Pécresse, il me semble, quand ils voulaient privatiser les universités, tout ça. Et donc là, c'est encore les filières.
Et disons que les universités, c'est quand même un mastodonte un peu en France. Enfin, c'est quand même quelque chose d'énorme. Alors que nous, on est un peu isolés puisqu'on est dans un autre ministère.
Ouais, vous êtes en dehors du système.
Donc c'est un peu pour ça aussi qu'on s'inquiète. En fait.
Ouais.
Oui.
Donc le corps enseignant, l'administration se joint à la grève, il n'y a pas que les étudiants.
Non, on est dans la majorité des écoles, donc aujourd'hui, je ne l'ai pas précisé, il y a 16 écoles sur 20 qui sont engagées dans le mouvement, donc qui sont dans lesquelles les cours sont banalisés, qui vont faire des manifestations, etc. Effectivement, il y a beaucoup d'administrations qui ont rejoint le mouvement. Des étudiants, aussi des professeurs. Donc nous, par exemple, à Bordeaux, effectivement, on a des professeurs qui, toute la semaine, se sont engagés à faire des interventions, à expliquer aux étudiants aussi les conditions de travail d'un architecte en France aujourd'hui ou d'un paysagiste, les conditions de travail d'un enseignant, les conditions de travail d'un chercheur. Donc, on a le soutien. C'est pas seulement un mouvement étudiant, en fait, hein, c'est un réel mouvement de la culture. Je tiens à préciser qu'il y a aussi les écoles des Beaux-Arts qui sont en grève, qui ont bloqué certaines écoles, notamment celle de Bordeaux, du coup, depuis plusieurs jours. Ça touche pas seulement les écoles d'architecture et de paysage, c'est vraiment un réel problème dans toutes les écoles du ministère de la Culture. Et c'est assez dramatique ce manque de moyens dans la culture.
Dont les
en fait,
beaux-arts,
pour nous.
Donc. Oui.
Voilà.
Dont les beaux-arts. Et on le rappelle, on le précise et on insiste dessus, quand une école ou des étudiants font grève et bloquent une fac, la fac ne s'arrête pas. Elle vit à 100%. Oui. C'est encore plus un lieu de débat, d'échange, d'explication, un lieu de culture aussi. Il y a des ateliers, tu l'as dit, Héloïse. J'imagine qu'il y a plein de débats. Il y a des cours sauvages, des ateliers sauvages. Voilà,
Des ateliers, des tables rondes. Je vous invite à regarder sur Instagram. On a donc deux comptes, ENSA en lutte. Donc ça, c'est le compte du Mouvement National, et ENSAP Bordeaux en lutte. Donc ici, c'est pour voir tout ce qui se passe à Bordeaux. Donc on poste des stories, des vidéos. On fait beaucoup de choses en communication pour vous montrer qu'en fait, on n'est pas juste à rester chez nous et à rien faire pendant cette semaine. Au contraire, on est là pour réfléchir. On a plein d'ateliers qui sont organisés sur du coup les conditions de travail, aussi sur les conditions sociales des étudiants, les étudiants en précarité notamment, comment on peut les aider, comment intégrer beaucoup plus, c'est un autre fer de lance, l'écologie dans l'enseignement de l'architecture et du paysage, c'est super important. On est un des métiers qui participe le plus en fait aux émissions de CO2 hein, au monde, et on a besoin aujourd'hui de réformer ça et de savoir comment on peut faire pour changer ça, et nous ça nous tient particulièrement à cœur. Donc voilà, on a plein d'actions qui sont menées toute la semaine. L'école, elle a jamais... Enfin, moi, j'ai jamais vu l'école aussi vivante, honnêtement, de toute ma vie. C'est hyper stimulant. Et voilà, je vous invite à aller voir tout ça. C'est super chouette ce qui se passe.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça n'est pas que les étudiants en paysage ou que les étudiants en architecture, et pas que les étudiants en master. Enfin, disons qu'il y a vraiment tout le monde de toutes les années et des deux types de formations. Donc c'est ça aussi qui est... très intéressant. Et dans l'équipe enseignante, on a aussi des laboratoires de recherche qui, eux, comme le disait Héloïse, sont vraiment très concernés par ces baisses de budget. Les doctorants, il y a de moins en moins de doctorants, il y a de moins en moins d'argent qui est alloué à la recherche en architecture et en paysage, et qui sont pourtant essentiels. Et à Bordeaux, en plus, on a cette spécificité d'avoir le paysage, puisqu'il n'y a que deux écoles qui sont à école d'architecture et école de paysage, qui sont Lille et Bordeaux. Après, on a d'autres types de formation en paysagiste concepteur. Mais à Bordeaux, on a vraiment cette spécialité. Donc, c'est ça qui aussi nous touche, et on aimerait avoir plus de moyens pour pouvoir mieux nous former, tout simplement.
Et si je peux ajouter, en fait, finalement, ce manque de moyens, il se répercute directement ensuite à l'échelle nationale sur la profession d'architecte, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, on fait partie des pays d'Europe qui ont le moins d'architectes par habitant. Donc la moyenne pour l'Europe, c'est à peu près un architecte pour 1000 habitants. Nous, on est à 0,4 architectes pour 1000 habitants. C'est vraiment très peu. Et en fait, tout ça, ça a un impact direct sur toutes les commandes publiques, tout ce qui se construit, en fait, le manque de logements, etc. Enfin, ça a vraiment un impact sur la vie de tout le monde. Donc si on n'a pas les moyens de former des architectes et des paysagistes, on n'aura pas d'architectes et pas de paysagistes.
Donc c'est vraiment une affaire de tout le monde.
Oui,
exactement.
C'est un mouvement qui est parti de l'ENSA Normandie, comme tu nous l'as expliqué, Héloïse. Bordeaux a rejoint le mouvement un mois plus tard. Pourquoi il y a eu un délai d'un mois ?
Il y a eu un délai d'un mois parce que donc, le mouvement a commencé à toucher l'ENSA Normandie. On a l'ENSA Grenoble qui s'est greffé à eux parce qu'en fait, à l'ENSA Grenoble, on a un syndicat étudiant qui est très très fort. Et ensuite, les écoles parisiennes qui sont à proximité du ministère de la Culture se sont également ajoutées. Nous, donc, on a rejoint le mouvement officiellement jeudi, mais ça faisait déjà plusieurs jours qu'on menait des campagnes de sensibilisation au sein de l'école, déjà pour drainer nos propres étudiants dans ce mouvement-là. Donc les choses se font petit à petit et on essaye d'aller au plus vite possible, mais sans faire n'importe quoi, puisque ça demande beaucoup d'organisation de pouvoir monter du coup ces manifestations, ces grèves, de déposer des motions, etc. Mais aujourd'hui, je tiens à préciser qu'on a réussi à obtenir le soutien de plusieurs syndicats. On a la CGT Culture qui a déposé un préavis de grève pour que tous les enseignants et les personnels des écoles du ministère de la Culture puissent se mettre en grève. On a réussi à obtenir pas mal de soutien de la part de plein de monde. Donc voilà, on y va doucement mais sûrement. On préfère faire les choses bien, dans l'ordre, pour que le ministère nous entende.
Donc petit à petit, comme tu le dis, il y a des associations, des syndicats étudiants qui viennent soutenir et renforcer la mobilisation étudiante.
Et des syndicats non étudiants, donc la CGT Culture est derrière nous aussi.
Il y a des syndicats étudiants là qui sont joints ou pas ?
On a le RERA, c'est le syndicat étudiant de l'école d'architecture de Grenoble, magnifique. qui a une antenne du coup dans deux autres écoles, je ne saurais plus vous dire lesquelles.
Mais ça fait plaisir de voir qu'il existe encore des syndicats étudiants qui se mobilisent.
C'est ça.
c'est bien. Et comment vous l'organisez cette grève ? Alors est-ce que vous avez un comité de mobilisation, j'imagine ?
Alors on a fait une organisation
très transversale.
En fait, on a plusieurs représentants qui... Alors, je sais pas, c'est une organisation par pôle. En fait, on a beaucoup de choses qui sont menées actuellement, des actions de communication, des créations d'ateliers. On doit communiquer beaucoup avec les professeurs de notre école, les administratifs de notre école, mais aussi des autres écoles. Puisqu'il y a un mouvement national, on essaye de s'aligner au mouvement national. Hein, la grève, la manifestation, pardon, qui est en ville tout à l'heure à 14h, elle est synchronisée avec toutes les manifestations qui sont en France aujourd'hui à 14h aussi dans les écoles d'architecture. Donc voilà, ça demande énormément d'organisation. C'est pour beaucoup d'entre nous, c'est la première fois qu'on fait ça, honnêtement. Donc c'est super stimulant, super chouette. Il y a énormément d'effusion, beaucoup d'idées, etc. On apprend petit à petit et on espère surtout qu'on va pouvoir garder tout ça. Enfin, on fait en sorte, en fait, on documente beaucoup. On prévoit de sortir à la fin de la semaine des communiqués, pourquoi pas un livre aussi qui documentera en fait tout ce qui s'est passé cette semaine, tout ce qui va se passer cette semaine. Et voilà, il y a énormément de choses qui sont produites et on fait tout en fait pour que ça ne parte pas en fumée après la semaine.
Et vous n'avez pas peur que ce mouvement-là, il soit un peu éclipsé par le mouvement de mobilisation contre les retraites, enfin contre la réforme des retraites ? Parce que pour les étudiants d'architecture, ça n'a pas lieu en même temps.
Oui et non, bien sûr. Donc effectivement, oui, vu qu'il y a une grande mobilisation nationale, on peut passer un peu inaperçu, puisqu'on est un petit groupe d'étudiants, les étudiants en architecture et paysage. Mais d'un autre côté, on parle directement au ministère de la Culture. Donc en fait, le ministère de la Culture, il est assez peu concerné bien par sûr. La réforme des retraites. Donc on a quand même un certain impact. C'est ça aussi l'objectif.
C'est pas la même cible et... tout en disant aussi que on se bat aussi pour la profession d'architecte et pas seulement pour les étudiants et de paysagistes. Donc c'est pas non plus tout complètement sans lien.
Mais c'est une autre, voilà, faut bien comprendre, c'est une autre mobilisation. Il n'y a pas que la réforme des retraites en ce moment qui pose problème. Donc là, c'est une autre manifestation, il faut s'y intéresser.
Il s'est trouvé que là, à l'ENSA de Normandie, ça a vraiment été critique pour la rentrée, donc il y a eu un mouvement, et ça s'est fait maintenant. Et donc autant profiter du mouvement, on va pas décaler le mouvement parce qu'il y a la réforme des retraites.
En fait, c'est un concours de circonstances. Enfin, encore une fois, je le reprécise, mais ne pas pouvoir ouvrir une école d'enseignement supérieur en France, une école publique en 2023, c'est absolument scandaleux.
Et une grande école, normalement. On est censé être... C'est quand même pas normal.
Voilà, donc on va pas attendre plus qu'il y ait d'autres écoles qui ne puissent pas ouvrir leurs portes. En fait, c'est pas possible.
Ça remet en question le principe fondamental
d'éducation.
D'éducation et d'enseignement supérieur.
Et du droit à l'éducation, oui.
C'est un mouvement qui est relativement jeune, hein, mais jusqu'à présent, ça donne quoi les résultats de cette mobilisation ?
Eh bien, on a eu une première audition ce matin au ministère de la Culture.
Ok, on sait ce que ça a donné ou pas encore ?
On attend. Très bien. Et on espère grandement en avoir une deuxième, donc pour pouvoir travailler profondément sur ces sujets et pas juste être entendu une fois.
Comment on se tient informé de l'avancée de cette lutte ?
Encore une fois, je vous invite à suivre le compte Instagram ENSA en lutte qui documente tout très bien. Après, on est en contact avec plusieurs médias et on essaye de faire porter aussi le mouvement dans les médias. Alors bien sûr, dans les revues spécialisées en architecture, etc., on a déjà pas mal d'articles qui sont parus. On essaye de toucher un petit peu plus à l'échelle nationale. Déjà aujourd'hui à Radio Campus, c'est super d'être là.
Oui, c'est une façon de montrer aux universités, plus au monde étudiant en général, qu'on existe et qu'on revendique aussi un manque de moyens aussi.
Voilà.
Ça fait un moment que la tendance auprès des gouvernements, qui sont essentiellement de droite, c'est de ne pas écouter les mobilisations, les mouvements sociaux. Vous êtes prêts à aller jusqu'où pour vous faire entendre ?
Écoutez, on a déjà 16 écoles qui sont bloquées avec plus d'enseignement. Je crois que c'est déjà pas mal.
Sur 20, c'est à peu près pas mal.
Voilà, on a des manifestations à Paris tous les jours et on est en train d'inviter aussi tous les professionnels du métier à nous rejoindre. Donc, on verra jusqu'où on ira.
Et disons qu'il y a un tiers des étudiants qui sont en Île-de-France, des étudiants en architecture, je sais pas pour les paysagistes. Donc, c'est quand même très important au niveau des écoles parisiennes. Et eux vont se rendre directement cet après-midi au ministère de la Culture. Donc, en fait, ça va beaucoup aussi dépendre d'eux. Mais nous, en province, disons, on est aussi important. Et je pense qu'on peut très bien se faire entendre auprès du moins de la DRAC, donc de l'antenne du ministère de la Culture.
On est également prêt à envoyer des délégations aussi à Paris, des écoles de province. C'est très important parce qu'on a des problématiques qui sont peut-être des fois un petit peu différentes en province aussi que les écoles parisiennes en termes d'accès à beaucoup de choses, hein, comme dans tous les...
À la culture, d'abord, enfin, voilà. Tout simplement.
Et du coup, il y a des choses qui sont en train de s'organiser aussi de ce côté-là pour pouvoir faire porter la voix de toutes les écoles et pas seulement des écoles parisiennes. Mais on est vraiment tous ensemble dans ce combat. Enfin, on communique tous les jours, en fait, avec toutes les écoles. Et c'est hyper important pour nous d'être très soudés dans ces choses-là.
Et une dernière question pour vous. C'est quoi la manière la plus efficace de vous soutenir, même si on n'est pas en école d'architecture ?
Venez manifester avec nous, s'il vous plaît. On a vraiment besoin de visibilité. Et ensuite, tout au long de la semaine, n'hésitez pas à vous tenir informés. Enfin, je veux dire, la visibilité, c'est vraiment le premier moyen de montrer que vous êtes là pour nous. Donc, voilà.
Donc, partagez sur les
partagez,
réseaux sociaux.
Partagez un maximum.
Simple.
Informez-vous sur ce qui se passe. Et voilà, n'hésitez pas à venir, si vous êtes à Bordeaux, jeter un œil à ce qui se passe à l'école d'architecture de Bordeaux. On vous ouvrira les portes avec grand plaisir.
Exactement. Et c'est très joyeux aussi, la mobilisation, quand même, il faut le dire, est très joyeuse.
Ce matin, on a fait plein de crêpes.
Voilà. Donc vous pouvez
et
venir
en
manger
plus,
des
on
crêpes.
Mange bien. Et Louise et Pierre, merci énormément d'être venus dans Café Campus nous présenter ce qu'on étudie à l'ENSAP, l'École Nationale Supérieure d'Architecture et de Paysage, et puis surtout ce qui se passe en ce moment avec la grève et la mobilisation étudiante. Je vais vous laisser aller en manifestation. Bon
merci.
Courage et bonne mobilisation.
Merci beaucoup.